Bonjour à chacun. Lorsque j'ai abordé le thème de l'amour pour nos ennemis la semaine dernière, vous avez pu vous dire, mais je ne crois pas avoir d'ennemis. Si nous devons aimer nos ennemis, à combien plus forte raison devons-nous aimer nos frères et nos sœurs dans la foi et selon le commandement, notre prochain comme nous-mêmes? Je lirai donc aujourd'hui un extrait de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, et chapitre 5, versets 1 et 2. Nous sommes le dimanche 26 avril. Parole de l'apôtre Paul. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance, soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Je ne vais pas épuiser aujourd'hui le sujet ou les sujets développés dans ce texte, mais je voudrais rassembler mes pensées autour du simple commandement qui figure au verset 32 du chapitre 4, Soyez bons les uns envers les autres. Que le Seigneur nous éclaire. La bonté est si vaste qu'elle remplace, nous est-il dit, toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance. Mais tout en écoutant cette énumération, on peut aussi se remémorer ces passages qui disent Soyez en colère, mais ne péchez pas. Quelques versets seulement avant ceux que j'ai lus. Et l'apôtre Jacques disant Soyez lents à la colère. Et l'évangéliste Marc disant que Jésus leva les yeux sur les pharisiens avec colère. Était-ce par bonté aussi que Jésus, avec un fouet, chassa les marchands du temple et renversa leur table? Qu'aurait répondu Jésus si on lui avait dit qu'il fallait qu'il évacue toute colère de son comportement? Peut-être aurait-il dit, parfois un cœur plein d'amour et une passion pour la vérité ne s'exprime pas gentiment. Ou bien il aurait dit, il y a une sorte de bonté qui peut être dure comme fer. Ainsi, lorsque Paul dit dans l'épître aux Éphésiens que nous pouvons être en colère, mais que nous ne pouvons pas pécher, et qu'il ajoute un peu plus loin qu'il faut se débarrasser de la colère et être bon, ce qu'il veut dire, je crois, est que toute amertume intérieure et malice doivent être prohibées, pas de calomnie, pas d'esprit bagarreur. Mais quand vous vous apercevez que Dieu est offensé ou que la fraternité est bafouée, alors avec l'aide de l'Esprit Saint et en examinant vos propres comportements et vos sentiments, vous devez choisir entre donner libre cours à votre colère et changer votre colère en bienveillance. Les deux sont possibles, en toute justice. Trop souvent, on a considéré que la bonté consiste à être gentil avec tout le monde et à ne pas dire la vérité en face pour ne pas prendre le risque d'être blessé ou de blesser quelqu'un. On a laissé ainsi des situations s'enliser au détriment de tous et pour le malheur même de celui que l'on pensait protéger par une attitude soi-disant bienveillante. Alors je n'appelle pas à dire la vérité avec brutalité, bien sûr, mais à dire la vérité tout de même avec discernement, avec grâce, et accompagné de paroles empreintes de douceur, non pas pour détruire, mais pour construire une œuvre belle à nouveau. La bonté est donc un changement apparent du comportement, mais aussi un changement du cœur. Soyez bons les uns envers les autres, dit Paul, plein d'une tendre bienveillance. Si les manières sont douces, polies et serviables à l'extérieur, et que le cœur est dur à l'intérieur, on ne peut encore guère parler de bonté. Alors, comment comprendre la bonté? Deux modèles sont donnés pour nous dans le texte. Le premier est le pardon de Dieu, l'autre est l'amour du Christ. Le premier, nous le trouvons au verset 32 du chapitre 4, qui commence ainsi. Soyez bons les uns envers les autres, plein d'une tendre bienveillance, et se prolonge de cette manière: faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Le premier modèle de bonté est donc le pardon de Dieu dans le Christ, Dieu qui fait grâce. Le deuxième modèle est considéré au verset 2 du chapitre 5. Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Là, le modèle de bonté est l'amour du Christ se donnant pour nous. Alors, quel enseignement en tirer? D'abord, que nous enseigne le modèle du pardon de Dieu sur notre propre pardon? Plusieurs choses peuvent venir à notre esprit. D'abord, le pardon de Dieu prend le péché au sérieux, et nous devrions nous en inspirer. Le pardon n'est pas désinvolture envers le péché, il voit le péché, le nomme, puis le recouvre. Dieu pardonne ce qu'il déteste. Ensuite, le pardon de Dieu estime que tous les comptes sont réglés, et il devrait en être de même pour nous. Lorsque la bonté nous appelle à pardonner un tort commis à notre encontre, nous sommes soutenus par Dieu. Le mal qui a été fait est puni de la colère qui a été versée sur le Christ, quand le Seigneur a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Qui sommes-nous alors pour refuser le pardon à quelqu'un, alors que le Seigneur lui-même a offert son pardon? Enfin, si le pardon de Dieu a eu un coût, le nôtre nous coûte aussi. Il a coûté son Fils à Dieu, mais pour nous cela va coûter le goût de la vengeance et le plaisir de la rancune. Le second modèle de notre bonté est donc l'amour du Christ, que l'on voit exposé au verset 2 du chapitre 5. Vivez dans l'amour, nous est-il dit, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice. Et là, nous pourrions mentionner trois choses bénéfiques pour nous. D'abord, l'amour du Christ, pour nous, est immérité. Et nous ne devrions pas penser que les gens doivent gagner notre amour et recevoir notre bonté. Aucun de nous n'a jamais mérité d'être aimé par Jésus-Christ. Librement nous avons reçu, librement nous devrions donner. Ensuite, l'amour du Christ pour nous est saint. Le but de l'amour du Christ est la sainteté de ceux qui lui appartiennent. Il a voulu que l'Église soit sainte et sans reproche. L'amour vise à la sainteté d'un homme et d'une femme, pas à leur bonheur terrestre. La bonté n'est pas une stratégie pour éviter les conflits. Elle est calquée sur l'amour du Christ et vise à promouvoir la sainteté. Enfin, l'amour du Christ pour nous était sacrificiel, et le nôtre doit l'être aussi. Nous l'avons déjà dit. L'amour de Dieu a eu un coût, mais il est bon de le répéter, parce que chacun de nous sait que la chose la plus difficile quand on parle de bonté est de la montrer quand on a mal. Un miracle de la grâce. D'ailleurs, quand Paul dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous, vous l'avez entendu, le verbe est au passif, que tout soit enlevé. Si la décision nous était laissée d'être bons, nous serions tout simplement incapables d'éloigner l'amertume et la méchanceté de notre cœur. Nous devons comprendre que quelqu'un d'autre que nous est à l'œuvre ici. C'est ce que nous pouvons lire d'ailleurs dans un autre passage de la même épître. « Soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. » Soyez renouvelés, un autre verbe passif. Il doit y avoir une puissance ou une personne qui renouvelle. Et nous savons ce qu'est cette puissance, ou qui est cette personne plutôt. Galates chapitre 5 le dit très clairement, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et d'autres choses encore. Si l'esprit de Dieu ne vient pas dans notre vie pour faire une œuvre surnaturelle, nous pourrons peut-être embellir l'apparence de notre bonté, mais le fond ne sera pas changé. Paul dit que toute amertume soit enlevée. Ceci est un appel à l'action de l'Esprit en nous par la foi. Est-ce en vertu des œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit, demande l'apôtre Paul, ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Par la foi, donc, j'accepte que le Christ se soit livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Je ne sais pas comment vous ressentez ces mots, mais quand même, ce n'est pas rien d'entendre ou de lire que le sacrifice du Fils était un parfum de bonne odeur pour Dieu. Il y a dans cette phrase des réalités si grandes et si terribles, si merveilleuses et si dévastatrices. Elles sont la puissance de Dieu pour notre sanctification et le déracinement de ce que Paul nous appelle à rejeter, l'amertume, l'animosité, la colère, entre autres choses. Comment ne pas chercher à exprimer de la bonté quand on considère la bonté immense de notre Seigneur? Et ce n'est pas par la puissance de la chair que je serai capable de surmonter mon amertume, ma colère, ou toute autre chose de cette liste. C'est en recherchant l'Esprit Saint afin qu'il porte ses fruits dans ma vie. Dieu a pardonné tous nos péchés. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ, dit Paul. Chaque faute que nous avons commise a été pardonnée librement dans le Christ Jésus et doit nous rendre humbles et bons vis-à-vis des autres. Et vis-à-vis de Dieu aussi. Finalement, mais pas moins important, Paul dit ceci, imitez Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est vrai, nous sommes aimés de Dieu et c'est là déjà un miracle dans notre vie. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Alors dans l'exercice de la bonté, comme dans bien d'autres choses, il vaut mieux être proactif et réfléchir à nos relations, à nos comportements dans ces relations, à nos motivations, comme si nous établissions un dialogue en nous-mêmes, dialogue intime, nécessaire, permettant un dialogue avec l'autre. Ce questionnement intérieur se révélera particulièrement utile dans les passages dangereux de notre vie. Notre bonté sera pour ainsi dire un arrière-plan devant lequel nous vivrons des relations avec les autres qui plaisent à Dieu, qui nous édifient et nous affermissent. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.